RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. La rue suivante, vous allez écouter magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie affirme son engagement à coopérer avec le Liban. Les prélèvements à l'exportation de palmiers à huile sont supprimés pour alléger le fardeau de la communauté. L'Indonésie a de nouveau dirigé une session internationale sur la propriété intellectuelle. Le président veut transformer le potentiel des villages en puissance économique. L'Indonésie s'est engagée à résoudre le problème des déchets plastiques. La participation des femmes à la vie politique est importante. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre des Religions, Lukman Hakim Saifuddin, a réitéré l'engagement du gouvernement indonésien à soutenir la création de l'unité et de la stabilité au Liban. Il l'a déclaré à la célébration de la fête de l'indépendance libanaise lundi à Jakarta que jusqu'à présent, le gouvernement indonésien a contribué à l'amélioration de la stabilité au Liban en envoyant plus de 1500 forces armées indonésiennes en tant que gardiens de la paix qui sont membres de la FINUL. Le ministre Lukman Hakim est optimiste que la nation libanaise puisse faire face aux défis et développer pour devenir un pays plus avancé à l'avenir. Nous savons que le peuple libanais a traversé beaucoup de choses, mais nous croyons que vous allez relever tous ces défis et aller de l'avant. Dans ce cas, je vais souligner notre engagement pour la sécurité, l'intégrité et la stabilité du Liban. Concernant la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Liban, le ministre de la Religion, Lukman Hakim Saifuddin, a déclaré que les deux pays avaient encore beaucoup d'occasions de développer la coopération établie jusqu'à présent. Plusieurs secteurs qui ont la possibilité de développer une telle coopération incluent la coopération économique, l'éducation, la culture, l'éducation et l'enseignement de l'islam modéré et l'amélioration des relations entre les communautés et les entreprises. Le ministre de la Coordination maritime, M. Luhut Binsar Panjaitan, a expliqué que la politique gouvernementale de supprimer le prélèvement à l'exportation huile de palme brute ou CPO afin d'alléger le fardeau imposé à la communauté en raison de la baisse des prix mondiaux de l'huile de palme brute. Pendant la suppression temporaire, le gouvernement utilisera les taxes à l'importation perçues jusqu'à présent pour alléger le fardeau de la communauté. Cela a été rapporté après avoir rencontré le président Joko Widodo lundi après-midi au palais présidentiel à Jakarta. Selon Luhut, la décision du gouvernement de supprimer les taxes à l'exportation de CPO en surveillant l'évolution des prix mondiaux de l'huile de palme. Le gouvernement a réussi à percevoir des prélèvements à l'exportation jusqu'à 30 000 trillions de rupiah. Le montant, selon lui, sera utilisé pour améliorer le bien-être des producteurs de palmiers à huile pendant les prélèvements à l'exportation sont supprimés.
Ya, memang harga sawit yang terus turun. Jadi, pemerintah lihat, presiden melihat dalam hal ini.
Les prix de l'huile de palme continuent de baisser. Le gouvernement va baisser pour les 6 prochains mois. Si je ne me trompe pas, nous voyons d'abord, pour l'instant, le palmier à huile s'adresse aux basses couches de la société. Le président ne garde que les basses couches de la société. Nous ferons à nouveau la réaction du marché. Nous avons le fonds plus de 30 trillions rupiah. Le président a également souhaité que ces fonds puissent être utilisés pour aider les petits agriculteurs. Auparavant, le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a annoncé la décision de fixer le prélèvement à l'exportation de l'huile de palme brute de 50 dollars jusqu'à 0 dollars par an. Cette politique a été adoptée en raison des impacts négatifs face à l'industrie de CPO domestique qui diminue. Le prix de l'huile de palme est en forte baisse, 530 dollars américains par tonne la semaine dernière à 420 dollars américains par tonne. Selon Luhut, cet effort vise à maintenir la stabilité économique dans le pays face à l'instabilité économique mondiale. Le représentant indonésien aux Nations Unies à Genève a de nouveau dirigé une session internationale sur la propriété intellectuelle et le développement. Cela a été dit par le représentant permanent indonésien à Genève, reçu à Jakarta lundi. Le représentant permanent de l'Indonésie auprès des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, l'ambassadeur Hassan Kleib, a de nouveau dirigé la 22e session du Comité de développement et de la propriété intellectuelle. La réunion s'est déroulée au siège de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ou OMPI, à Genève, la Suisse, du 19 au 23 novembre 2018, qui a été assistée par les délégués de 191 pays membres de l'OMPI et directeur général de l'OMPI. Sous la direction de l'Indonésie, le CDIP a réussi à décider de plusieurs ordres du jour qui avaient beaucoup été entravés, y compris l'acceptation de la tenue d'une conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement en 2019 qui n'a pas pu être convenu depuis 2015. Le succès de la direction indonésienne au CDIP est directement reconnu par le directeur général de l'OMPI, Francis Gehry, ainsi que par tous les pays membres, tant des pays en développement et des pays développés. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le président Joko Widodo a exprimé l'espoir que la prochaine série des programmes de fonds villageois permettra de transformer le potentiel de plusieurs villages en force économique. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lors d'une réunion tenue pour évaluer la politique de développement, de l'autonomisation de la communauté rurale et socialisée, la priorité de l'utilisation du Fonds de Village 2019 à Palembang Sport and Convention Center récemment. Outre les infrastructures, le fonds pourra être utilisé, par exemple, pour développer le tourisme dans les villages. Le président Jokowi a ajouté que la prochaine série de programmes de fonds villageois ne devrait pas simplement viser à construire des infrastructures, mais également à développer les ressources humaines et le potentiel rural. Comme Antara l'a cité, le président a affirmé également que le fonds de village devrait également servir à améliorer la santé des villageois en s'attaquant notamment à la malnutrition et au retard de croissance. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la Pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré que le gouvernement indonésien était très déterminé à résoudre le problème des déchets plastiques aux eaux territoriales indonésiennes. La ministre Susi a déclaré que le président Joko Widodo avait déployé des efforts considérables pour résoudre le problème des déchets plastiques dans l'océan indonésien en publiant le règlement présidentiel. Comme indiqué par Republika, la ministre Susi à Jakarta récemment a déclaré que le gouvernement publia un règlement visant à sensibiliser la population au danger des déchets plastiques pour les animaux marins indonésiens. Elle a ajouté que l'engagement indonésien de réduire les déchets plastiques avait également été transmis à l'échelle mondiale lors de la conférence Notre Océan 2018 tenue à Bali en octobre. Lors de la conférence à laquelle ont participé des centaines de chefs d'État mondiaux, la ministre Susi a mis l'accent sur le sac en plastique utilisé pour les jassas. La chercheuse de l'Institut indonésien des sciences, Madame Siti Zuhro, estime que la contribution des femmes à la vie politique est essentielle, en particulier parmi les défis qui menacent l'unité de l'État et de la nation indonésienne. C'est ce qu'a affirmé Siti Zuhro lors d'un séminaire international sur le thème « Le rôle des femmes dans l'éducation et la politique nationale » à l'Université Aisyah Yogyakarta récemment, comme cité par Antara. Madame Siti Zuhro a souligné que les femmes devraient avoir la même possibilité que les hommes de se prendre en charge. Il y a 265 millions d'Indonésiens en 2018, dont 133,17 millions sont des hommes et 131,88 millions des femmes. Selon Siti Zuhro, sur la base des données, les femmes indonésiennes doivent participer à l'établissement de la politique nationale avant de pouvoir défendre les intérêts du peuple. C'est le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, les devoirs des électeurs handicapés mentaux. L'existence d'électeurs handicapés mentaux a été de plus en plus discutée. La Commission électorale générale, ou KPU, enregistrera les personnes handicapées mentales sur la liste électorale fixe 2019. Toutefois, les personnes handicapées mentales doivent apporter une lettre de recommandation d'un médecin pour pouvoir voter. La lettre contient des informations selon lesquelles les personnes handicapées mentales sont en bonne santé et peuvent utiliser leur droit de vote. Selon KPU, en se référant aux dispositions légales, les personnes handicapées mentales ne peuvent fondamentalement pas engager d'actions en justice, de sorte que ces actions ne peuvent être demandées par la responsabilité. La déclaration de la Commission électorale générale a certainement été rejetée par diverses parties comme eux de l'Association indonésienne de l'AMSEN et le Réseau indonésien de réadaptation psychosociale. Selon eux, les électeurs handicapés mentaux n'ont pas besoin d'une lettre de recommandation d'un médecin pour pouvoir utiliser leur droit de vote aux élections. La raison en est que ces conditions ne sont pas incluses dans la législation, y compris la loi électorale. Les personnes handicapées mentales sont considérées comme chroniques et épisodiques ou en rechute. Si la période de rechute a lieu le jour de scrutin, les personnes handicapées mentales ne permettent pas d'utiliser leur droit de vote. Cependant, en dehors de la période épisodique, les pensées, les attitudes, les souvenirs et les comportements du patient ont toujours la capacité de voter aux élections. En surmontant des différences de point de vue, il faut certainement une pensée claire. toutes les parties doivent comprendre que le degré ou le niveau de handicap mental d'une personne varie. Pour les personnes handicapées mentales légères, basées sur les résultats d'une analyse ou d'un examen médical, il est indiqué qu'elles ne sont pas graves, l'utilisation du droit de vote ne pose aucun problème. Mais pour ceux qui souffrent de troubles mentaux graves ou permanents, bien sûr, ils ne pourront pas utiliser leur droit de vote, car ce qu'ils doivent faire avec les bulletins de vote, ce qu'ils ne comprennent pas. Même s'il est accompagné par d'autres personnes lors du vote, le principe des élections directes, libres et confidentielles n'est pas non plus mis en œuvre. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 27 novembre 1971, la création de la zone de paix, de liberté et de neutralité ou ZOPFAN. L'ASEAN a essayé de renforcer sa position en tant qu'organisation régionale en développant une zone de paix, de liberté et neutralité. La zone de paix, de liberté et de neutralité ou ZOPFAN est une déclaration signée à Kuala Lumpur, la Malaisie, par les ministres des Affaires étrangères de 5 pays membres de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Dans la déclaration, les parties ont déclaré leur intention de garder l'Asie du Sud-Est libre de toute forme d'ingérence par la force en dehors et élargir les domaines de coopération. Avec cette déclaration, on souhaite que les pays étrangers respectent l'ASEAN comme une région de paix, de liberté et neutre. ZOPFAN est également soutenu par un fort désir d'améliorer l'autonomie de l'ASEAN comme une organisation régionale qui est indépendante et n'est pas contrôlée par des forces extérieures. Le 27 novembre 2005, la première grève de visas au monde. Isabelle Dinoir, 38 ans, est devenue la première personne au monde à bénéficier d'une grève de visas, plus précisément du triangle nez-lèvre-menton, réalisé par l'équipe de professeur Bernard Devauchel en étroite collaboration avec le professeur Jean-Michel Dubernard. Isabelle Dinoir avait perdu son nez, les lèvres et le menton après avoir été victime d'une férocité de chien. Le 27 novembre 2009, la résolution des Nations Unies condamne le programme nucléaire iranien. L'Agence nucléaire des Nations Unies, ou AIEA, a adopté une résolution condamnant l'Iran pour avoir développé un enrichissement secret uranium. AIEA demande également à l'Iran d'arrêter immédiatement son projet nucléaire. La résolution est adoptée avec un ratio de voix de 25-3 et 6 votes absents. Cela s'est produit pour la première fois en presque 4 ans. L'Iran a déclaré que c'était inutile. Mais les États-Unis estiment que l'Iran manque de temps pour discuter des questions les plus importantes. L'Iran dit que son programme nucléaire ne vise que des objectifs pacifiques, mais les États-Unis affirment qu'il développe des armes nucléaires. En septembre, on a été découvert que l'Iran avait une installation enrichissement d'uranium à Natanz et près de la ville de Qom. Cela améliore la préoccupation occidentale sur l'ambition nucléaire de ce pays. La résolution de AIEA est soutenue par la Russie et la Chine, une chose qui s'était rarement produite auparavant. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Les quatre piliers de la nationalité devraient être inclus dans le programme scolaire. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, M. Mahyudin, lors de la discussion sur les quatre piliers dans le centre des médias de MPR à Jakarta, 22 novembre, cité par jakartajakarta.com, a déclaré que l'idée de ramener les valeurs morales Pancasila dans le système constitutionnel indonésien existait depuis longtemps. Selon Mahyudin, l'un d'entre eux, MPR, a proposé la publication d'une décision visant à reformuler le système de planification de développement de principes directeurs au GBHN par le programme d'enseignement Pancasila dans les écoles primaires. Mahyudin a estimé que les quatre piliers de la vie de la nation et de l'État étant socialisés par le MPR indonésien seraient plus efficaces s'il était inclus dans le programme et devenait des matières enseignées dans les écoles élémentaires. Il a également demandé au gouvernement de concevoir et appliquer l'idéologie Pancasila au programme d'enseignement en Indonésie. Il a expliqué que l'aspect moral des enfants ou des adolescents se trouve dans un environnement qui connaît l'éthique. Selon lui, les jeunes d'aujourd'hui sont très doués pour utiliser des appareils électroniques. La mise en œuvre des valeurs de Pancasila les plus importantes et fondamentales est en termes de formation morale. Selon Mahyudin, la socialisation des quatre piliers aux différentes régions en Indonésie est encore limitée, seulement dans les villes et non dans le village. Ma'ruf Cahyono, le secrétaire général de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, au séminaire sur la nationalité aux étudiants de l'Université Muhammadiyah de Purwokerto, 24 novembre, cité par indopost.co.id, a demandé à la jeune génération de comprendre la démocratie Pancasila à l'ère numérique. Ma'ruf a déclaré que la génération du millénaire devait être l'un des principaux groupes cibles et priorités, car c'est la génération qui poursuivit la lutte de la nation. La génération actuelle doit avoir de l'endurance, en particulier pour comprendre et mettre en œuvre l'identité nationale. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel, introduisant le festival Ndok Ndogan. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Le 20 novembre dernier, les habitants de Banyuwangi, Jawa Est, se sont réunis pour organiser le festival Ndok Ndogan en commémorant l'anniversaire du prophète Mohammed. Le festival se déroule animé, des milliers de fleurs d'endok sont exposées depuis quatre coins, à savoir de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, jusqu'au point de rassemblement situé devant le bureau du gouvernement régional de Banyuwangi, Jawa Est. La procession dans chaque direction était accompagnée de tambourins et de danses kuntulan de dans spécial de Banyuwangi, accompagné par le tambourin et le tambour. Chaque participant à la procession a également apporté ancak sous forme d'aliments prêts à consommer. Dans la langue Using, la tribu autochtone de Banyuwangi, Ndok signifie œuf. Dans le festival, des milliers d'œufs sont placés sur des tiges de bambou décorées de fleurs en papier. Ceci est largement connu comme la fleur Ndok. La fleur Ndok est ensuite assemblée en Judang, qui est un lieu ornemental qui devient un tableau de fleurs Ndok. Certains sont fabriqués de la nervure centrale de la banane, du liège, etc. Conformément aux époques, les fleurs Ndok ne se présentent pas seulement sous la forme de fleurs, elles se développent également selon la créativité de chacun, comme les modèles de baron, de serpent-dragon, d'avion ou de cône. Habituellement, dans un judang contient 27, 33 ou 99 fleurs Ndok. La tradition Ndok-Ndogan est apparue à Banyuwangi à la fin du XVIIIe siècle. Un religieux du village de Cemoro Songgon, nommé Abdullah Faqih, utilise média à base d'œufs comme moyen de propagande. La fleur Ndok elle-même n'est pas simplement une décoration ou un divertissement. Cependant, elle est pleine de valeurs philosophiques. Cette tradition utilise des œufs car les œufs sont un symbole de naissance, alors que la fleur est un symbole de culte. Ce festival, qui est une tradition typique du peuple Banyuwangi, est une forme d'expression de l'amour des habitants de Banyuwangi envers le prophète Mahomet. La série du festival Ndok-Ndogan a été clôturée par une tausia maulid livrée par Ustad ainsi que par une prière. Ensuite, les ancak défilés ont été mangés ensemble, alors que les fleurs Ndok sont distribuées à tous les visiteurs. Aujourd'hui, le festival Ndok-Ndogan est organisé non seulement dans le cadre de la tradition, mais également comme l'une des attractions touristiques de la ville Banyuwangi. Habituellement, cette tradition a lieu tous les mois Rabiul Awal dans le calendrier islamique, en particulier le 12, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Saya merasa tenang, ou en français, je me sens calme. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre Saya merasa tenang, ou en français, je me sens calme. Tony, Joko, Enda et Dinda sont au centre culturel à Yogyakarta. Là-bas, il y a des spectacles d'art indonésien traditionnel et ils regardent le spectacle de gamelan.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir saya merasa tenang. Saya merasa tenang, ou en français, je me sens calme. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Gamelan, gamelan, en français, gamelan. Lagu, lagu, en français, chanson. Musique jazz, en français, musique jazz. Gamelan Jawa, gamelan Jawa, en français, gamelan japonais. Gamelan Bali, en français, gamelan baliné. Saya suka gamelan, saya suka gamelan, en français, j'aime le gamelan. Ini gamelan Jawa kan? Ini gamelan Jawa kan? En français, c'est du gamelan japonais, n'est-ce pas? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez du gamelan japonais? Saya merasa tenang. Saya merasa tenang. En français, je me sens calme. Saya merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat. En français, je me sens excité. Dans le dialogue, Dinda a demandé bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez du gamelan japonais? Tony a aussi demandé bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez du gamelan balinais? Pour poser des questions sur les sentiments de quelqu'un lorsqu'il entend quelque chose, commencez par la phrase suivante. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez? D'autres exemples. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez le gamelan? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar lagu ini? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar lagu ini? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez cette chanson? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar musik jazz? Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar musik jazz? En français, comment vous sentez-vous lorsque vous entendez la musique jazz? Exemple de réponse, saya merasa tenang. Saya merasa tenang. En français, je me sens calme. Saya merasa bersemangat. Saya merasa bersemangat. En français, je me sens excité. Saya merasa sedih. Saya merasa sedih. En français, je me sens triste. D'autres exemples. Saya merasa tenang ketika mendengar musik gamelan. En français, je me sens calme quand j'entends la musique gamelan. Gamelan est un instrument de musique traditionnelle joué par un groupe de personnes. Si le gamelan est joué, il sonnera beau et harmonieux. Le gamelan japonais est généralement joué avec un tempo lent, tandis que le gamelan balinais est joué avec un tempo rapide. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation.
Saya suka gamelan. Ini gamelan Jawa kan?
Iya. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Jawa?
Saya merasa tenang. Kalau kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mendengar gamelan Bali?
Saya merasa bersemangat.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Merci à tous et au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, secrétaire de la Voix d'Indonésie, le service mondial de RRI, où que vous soyez. Bienvenue avec moi au magazine musical, un programme qui présente des informations sur la musique indonésienne, qu'elle soit traditionnelle ou moderne. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons les chansons indonésiennes malaises. Pour ouvrir notre programme, écoutons une chanson intitulée Sri Banang, chantée par Wan Abdurrahman. Bonne écoute.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli
siang dan malam duduk mengenang. Ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi inti. Nyur gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat berisi inti. Hancurlah daging tulang bercerai. Ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti. Hancurlah daging tulang bercerai. Ahai belum ku dapat, belum ku dapat, hai belum berhenti.
Cerita bunda dekat la sangsong Malaysia ang titule Sri Banang. Se sangsong a ang tempo medium boku de parol song GPT. Dang la ville de Medan se sangsong e juna kalmang chanté lors de la cérémonie du mariage. D'autre sangsong Malaysia ko buzang tang de biento ang titule Sempaya chanté par Vivine Vania. Se sangsong hakong ta la volonté de quelqu'un dont l'amour l'a quitté. Bon, cerita voici donc Vivine Vania avec sa chanson en titulé Sempaya. Bon écoute.
Kasih hati dirantau orang, tetapi apalah daya, kekasih hati dirantau orang. Tapi apalah daya, sedang berkasih ditinggal pergi. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Sempaya buah sempaya, sempaya dari Palembang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang. Tetapi apalah daya, kekasih hati diambil orang.
Cerita benda dekut la sangsong sempaya de bibin vina. Sempaya etang go frui angkotang. Se frui similaire au frui de salak. Songgu e ege. A Palembang, cela s'appelle frui sempayo a sempayo. Se frui ege est utilisé dans les paroles de sa sangsong pour décrire la suite de la vie laissée par un amoureux. Malgré la lyrique triste, la musique de sa sangsong est toujours bon à danser. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée Tanjung Katung Diet Bustami. Bonne écoute et à demain!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Layang-layang bertali benang, putuslah benang, putuslah benang, tali berganti. Dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Siang dan malam duduk mengenang, ahai orang dikenang, orang dikenang, tak ambil peduli. Gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat, berisi inti. Nyur gading puncak mahligai, masak ketupat, masak ketupat, berisi impi. Hancurlah daging tulang bercerai.
Musik kutai tujuh, La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110, ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.